c'est l'émission Ardoise et je suis aujourd'hui au Musée national du Moyen-Âge des Thermes de Cluny à Paris pour visiter l'exposition Jeux dans l'art, art du jeu, jeux dans l'art de Babylone à l'Occident médiéval, une exposition qui se tient encore jusqu'au 4 mars 2013 et qui vient juste d'ouvrir ses portes. Et je suis donc avec les deux des commissaires en fait, hein, de cette exposition. Donc Anne-Elisabeth Dunn-Vaturi, donc vous êtes chargée du département de l'Orient, chargée d'études au département de l'Orient au Metropolitan Museum de New York, et également Isabelle Bardiès-Fronti, vous êtes conservateur en chef au musée de Cluny. Bonjour à toutes les deux et merci d'être avec nous aujourd'hui.
Bonjour.
Bonjour.
Alors cette exposition, est-ce que c'est une première de faire une exposition sur l'art du jeu qui finalement, on le voit, a été très, très important autant au niveau artistique hein, que pour le lien social aussi donc dans la société de l'Antiquité jusqu'à nos jours?
Oui, c'est une première en France pour ce cadre chronologique et géographique. En effet, il est souvent cas des échecs, mais là nous avons voulu parler des jeux de plateau et de pions depuis les origines, donc en Orient, avec des jeux égyptiens de cases et des jeux de pions qui vont être transmis ensuite en Orient, mais qui précèdent de loin, sur plusieurs millénaires, les échecs.
Alors, les jeux de plateau, vous êtes donc chargé d'études au département donc de l'Orient au Metropolitan Museum. Vous participez à cette exposition parce que justement, il y a beaucoup de pièces qui sont conservées dans ce musée.
Alors, le Metropolitan Museum est en effet un généreux prêteur de l'exposition, mais pas mon département. En fait, j'ai proposé ce projet il y a 6 ans à Elisabeth Delahaye, directrice du musée de Cluny, car je sentais l'importance d'inscrire les jeux de l'Antiquité dont je m'occupe dans une continuité avec le Moyen-Âge, et la collection du musée de Cluny comporte plusieurs jeux, notamment une boîte de jeux qui figure dans l'exposition et qui montrait l'importance du lieu pour accueillir ce thème.
Alors, pour faire un tour d'horizon un petit peu de cette exposition, Isabelle Bardiès-Fronti, donc conservateur au musée de Cluny, est-ce que vous pouvez nous dire, donc évidemment il y a l'Antiquité, il y a le Moyen-Âge, il y a la Renaissance, quels sont les jeux principaux finalement qu'on va voir dans cette exposition?
Après les premiers jeux de l'Orient et de l'Égypte dont Anne-Elisabeth Dunn-Vaturi vient de parler, il y a la présentation des plus grands jeux joués au Moyen-Âge. Alors on va simplement les définir. Le jeu d'alignement de pions qui s'appelle la merelle au Moyen-Âge, qui est la marelle, le tic-tac-toe actuel, on pourrait-on dire, pour transposer dans notre univers actuel. Il y a le jeu de tric-trac qui a une histoire singulière puisqu'on en trouve, c'est le seul dont on ait les origines des plus anciens temps, via le monde gréco-romain jusqu'au monde médiéval et aujourd'hui moderne avec le jaquet Bagamon. Il y a bien sûr le roi des jeux du Moyen-Âge, que sont les échecs, qui pénètrent en Occident un peu avant l'an 1000, qui viennent via la circulation des savoirs du monde arabe, du monde asiatique, indien notamment. Et puis il y a les cartes à jouer, qui apparaissent pendant le Moyen-Âge, à la fin du Moyen-Âge, un succès fulgurant, tant du côté de l'Europe du Nord en Allemagne que du côté de l'Europe méridionale en Italie. Et nous en parlons. Et vous parliez de la Renaissance, c'est intéressant parce que cette fin du Moyen-Âge, le 15e siècle en Italie, c'est déjà la Renaissance. Cette fin du Moyen-Âge et ce tournant vers la Renaissance, vous le voyez aussi exprimé artistiquement parlant par un dessin de Durer, préparatoire à un vitrail qui présente des joueurs. Mais aussi, on parlait de la célèbre boîte à jeux de Cluny qui est à la charnière entre le Moyen-Âge et la Renaissance. Mais notre propos s'arrête aux jeux qui ont été joués jusqu'à la fin du Moyen-Âge, puisque la Renaissance est une période qui initie de nouveaux jeux dont nous ne parlons pas dans cette exposition. On ne pouvait pas tout embrasser quand même.
Alors par exemple, si on pense aux jeux de tarot, est-ce qu'ils sont présentés dans cette exposition?
Oui, nous avons la présentation de quelques cartes, et notamment une carte très extraordinaire, un chariot du musée d'Issy-les-Moulineaux, qui est un jalon médiéval du 15e siècle italien du jeu de tarot. Et puis nous avons ces extraordinaires cartes qu'on a attribuées à Charles VI, qui n'ont pas été en possession de Charles VI en fait, mais qui sont des cartes de tarot italiennes du 15e siècle, œuvres qui appartiennent à l'univers déjà esthétique de la Renaissance, comme vous le soulignez tout à l'heure, et qui montrent que le jeu de tarot apparaît pleinement au Moyen-Âge, quand bien même il n'est pas strictement ce tarot de Marseille qui, lui, est installé, figé au XVIIe siècle plutôt.
Mais alors le jeu de tarot, on peut dire qu'il a été inventé en Italie, ou il vient d'ailleurs ?
Les jeux de cartes viennent d'ailleurs, viennent d'Asie, pour ce qui est de l'expression, de la transposition dans les cartes de tarot avec les principaux honneurs du tarot, l'origine semble clairement italienne. Alors que pour les suites numériques, avec les cartes, avec les honneurs et les points, on a deux foyers, l'un en Allemagne, l'autre en Italie, concurrents. Si vous voulez, le support carte est un héritage oriental, on le connaît en Chine dans des périodes très très anciennes. Mais la caractérisation de ces suites numériques d'une part et des grandes cartes de tarot qui se croisent parfois mais avec des honneurs particuliers pour le tarot, ça appartient au monde occidental et pour les tarots singulièrement au monde italien.
Alors je reviens vers vous, Anne-Elisabeth Dunn-Vaturi. Est-ce que c'est rare donc d'avoir comme ça des jeux qui datent de l'Antiquité aujourd'hui ? Est-ce que ce sont des pièces particulièrement précieuses et rares ?
Alors on a à la fois des pièces précieuses qui sont le plus souvent issues de contextes funéraires, c'est ainsi qu'elles sont les mieux conservées et elles viennent de tombes royales, notamment des tombes royales d'Ours mais aussi les tombes royales de la vallée du Nil. Mais on a également beaucoup, on a voulu présenter des jeux de la vie quotidienne, des jeux qui sont de simples graffitis sur des briques iraniennes ou encore des briques issues du palais de Marie en Syrie.
Alors justement, on a l'aspect esthétique aussi hein, dans ces jeux. Est-ce qu'on a des pièces qui appartenaient à des grands princes ou à des cours, par exemple, qui sont plus des objets peut-être de prestige ?
Oh, sans aucun doute, Anne-Elisabeth parlait à l'instant du célèbre contexte funéraire de certains princes. Le plateau d'Ours du British Museum est une pièce qui est absolument incroyable de virtuosité, marqueterie de lapis-lazuli, de coquillage. C'est une pièce extraordinaire et qui a appartenu à un grand prince, même si nous ne connaissons pas son nom. Et puis pour les périodes plus récentes, il y a ce grand plateau, cet échiquier avec un tric-trac à son revers du musée du Bargello de Florence, qui est une œuvre, qui est une telle performance artistique que la question qui est légitimement peut-être posée, c'est a-t-il jamais été joué ? N'est-il pas plutôt une simple commande artistique ? Question qu'on peut tout à fait poser également à l'endroit des grandes cartes peintes italiennes ou allemandes que nous montrons dans l'exposition. C'est-à-dire qu'il y a une dimension élitaire de commande artistique pour les jeux. Mais j'allais vous dire, ce n'est pas du tout notre sujet, mais vous savez combien les artistes contemporains aiment à se prêter à la conception, à la création de jeux. Songez aux sculpteurs, aux peintres, avec des cartes ou des pièces d'échecs. Ça appartient vraiment aussi à notre propos que de tracer cette filiation artistique très forte imprimée à l'endroit des pièces de jeux et des accessoires du hasard.
Justement, est-ce qu'on a des noms d'artistes connus qui auraient travaillé sur ces pièces pour des commandes précises, par exemple ?
Pour le Moyen-Âge, non. Vous savez que le Moyen-Âge est un art où les artistes le plus souvent sont anonymes. Et c'est vrai qu'on ne connaît pas les sculpteurs, par exemple, de l'extraordinaire jeu du XIIe siècle qui a été longtemps dit jeu de Charlemagne, enfin qui a toujours dit jeu de Charlemagne. Mais c'est une légende qu'au Moyen-Âge, on a instauré pour ces pièces du trésor de l'abbaye de Saint-Denis, alors même que le jeu a été sculpté à la période romane, donc postérieurement à la vie de l'empereur de Charlemagne. Mais en même temps, ces pièces absolument extraordinaires incitent ces grandes sculptures, les sculptures du jeu de Lewis, qui ont été elles aussi créées au XIIe siècle, mais cette fois-ci en Scandinavie. Nous n'en connaissons pas les auteurs et nous avons quelques attributions qui peuvent émerger autour des peintres de cartes italiennes, mais ce sont souvent des attributions. Donc c'est vrai que c'est ça à la fois la grande beauté, le caractère mystérieux et parfois un peu irritant. On ne rend pas hommage aux individus, mais les œuvres sont bien là pour parler pour eux.
Et on attribue souvent au jeu un caractère divinatoire. Par exemple, on pense évidemment au jeu de cartes hein, en premier lieu. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une légende ?
Non, on retrouve tout à fait la thématique de la divination avec le jeu de 20 cases, donc ce jeu des tombes royales d'Ours qui va se développer au deuxième millénaire. En fait, l'allée centrale comporte 12 cases que l'on calque sur les 12 signes du zodiaque. Et cette très forte relation est visible sur une tablette cunéiforme qui est la plus ancienne tablette comportant des règles de jeu, le jeu de 20 cases, une tablette du British Museum qui, au revers, comporte justement l'association des signes du zodiaque aux 12 cases du jeu. On a également la présence de plateaux de jeu en forme de foie. Or, la divination au moyen de foie est connue en Mésopotamie, c'est l'hépatoscopie. On va lire les malformations du foie pour connaître un présage. Oh, on a en fait des plateaux en forme de foie.
Voilà. Alors pour en revenir maintenant aux jeux d'échecs qu'on a évoqués tout à l'heure, est-ce que nos jeux d'échecs actuels, dans leur forme actuelle, avec le fou, la reine, le roi, etc., finalement sont les héritiers du jeu d'échecs du Moyen-Âge ? Est-ce que au Moyen-Âge c'était la même chose ? Est-ce qu'il y avait les mêmes figures ?
Alors, il y a quelques transpositions, mais en gros les pions sont là. Un des changements très profonds, c'est le changement du vizir arabe en reine. Dans le monde occidental. Et puis le fou a des incarnations différentes. Il est par exemple dans le monde nordique, vous le voyez avec le jeu de Lewis chez nous, ou la pièce que vient récemment d'acquérir le musée de Cluny. Il est l'évêque, toujours en anglais, il s'appelle le bishop, hein, le fou. Donc il y a des transpositions. Il y a un modèle au Moyen-Âge qui vient du monde arabe, avec des pièces, qui sont souvent très stéréotypées et abstraites, ce qui, comme vous le savez, est une des caractéristiques de l'art islamique. Et ce retour à une abstraction réapparaît à la fin du Moyen-Âge. Il y a, à la période du Moyen-Âge, tant dans les ateliers de sculpture d'Europe du Sud que d'Europe occidentale plus septentrionale, il y a une dimension très figurée de nos personnages. Vous en avez plusieurs exemples dans l'exposition, très émouvant. Et on voit aussi l'ensemble des pièces du musée de Cluny de la fin du Moyen-Âge, en ivoire de morse, blanche et verte, qui sont une vision beaucoup plus épurée, beaucoup plus stéréotypée, qui appartiennent plus à nos modèles. Je dirais même que le cheval est beaucoup moins reconnaissable que sur la plupart des cavaliers. Aujourd'hui, quand vous voyez les vendeurs d'échiquiers, vous avez ces deux familles, les familles de jeux très stéréotypées, qui appartiennent à des normes de typologie très, très bien circonscrites par les joueurs. Et puis vous avez un peu des extravagances, avec des jeux plus libres, qui essayent de transposer quand ce ne sont pas des assimilé de jeux anciens. Mais on retrouve de toute façon le même nombre et l'on retrouve ce principe d'une petite société. Jacques de Cessolles, lorsqu'il écrit son traité des jeux, il reproduit son traité des jeux d'échecs, moralisé, il reproduit tout l'univers du monde sur l'échiquier, c'est ce qui nous indique le jeu des champs d'origine. Il y a le roi, la reine, le chevalier, le conseiller qui est le fou, le cavalier, donc le chevalier, la tour, et puis les pions au-devant qui sont tout sauf anodins. Et Jacques de Cessolles les compose en représentant chaque place sociale, l'échangeur, l'artisan. Le monde est sur le plateau. Ça, c'est très important et je pense que ça reste vrai dans les allégories des jeux actuels.
Alors justement, les jeux actuels, on pense bien évidemment aux échecs ou aux jeux de cartes, hein, qui sont encore très courants. Est-ce que dans l'histoire, il y a des jeux qui étaient particulièrement fréquents au Moyen-Âge ou dans l'Antiquité et qui ont complètement disparu ?
Disparu peut-être, je pense au jeu du serpent. Graphiquement, ça fait penser au jeu de loi parce qu'il s'agit d'un circuit en spirale, mais ça n'a rien à voir avec le jeu de loi qu'on connaît. Donc peut-être ça, ce jeu du serpent qui est en fait un serpent enroulé qui aidait le défunt à renaître, puisqu'en fait il symbolise le dieu Méhen, le dieu serpent, qui s'entoure autour du dieu soleil, le dieu Ré, et qui aide Ré à parcourir les ténèbres et à renaître chaque matin.
Alors, qui jouait à ces jeux ? Est-ce que c'était réservé à une classe sociale particulière ? Est-ce que c'était plutôt les femmes ? Est-ce que c'était plutôt les hommes ? Qu'est-ce qu'on peut dire à ce propos ? Au Moyen-Âge, en tout cas.
On peut en parler même plus avant, n'est-ce pas, Anne-Elisabeth ? Les puissants jouent, mais pas seulement. Et c'est un des sujets. Peut-être peux-tu parler du plateau d'Our et de la brique de Marie ?
Oui. On a en fait des graffitis de jeux de 20 cases qui sont retrouvés dans la cour de Marie, mais aussi sur les socles de statues assyriennes. Et donc au Louvre, on n'a pas pu déplacer le génie bénisseur, mais le génie de Khorsabad, donc dans la cour assyrienne du palais, est en fait gravé sur le socle d'un jeu de 20 cases. Donc il y avait cette notion de garde qui passait leur temps en jouant au jeu de 20 cases.
Et ça, vous pouvez le transposer au Moyen-Âge, puisque vous avez presque à chaque donjon qui est encore debout, vous avez des merelles qui sont rapidement graffitées. Vous pouvez le transposer dans l'Antiquité classique, avec ces jeux qu'on trouve dans les grands sites antiques, notamment en Orient, à Palmyre ou à Éphèse, sur la côte turque, avec des jeux qui sont tracés au sol, on joue par terre. Et donc, on a bien là, on touche du doigt. Et vous avez, pour le Moyen-Âge aussi, dans notre exposition, la confrontation du fameux plateau du Bargello, dont nous avons parlé déjà il y a quelques instants, d'avec ce tablier de tric-trac extraordinaire trouvé en situation de fouilles urbaines à Saint-Denis, qui est à l'évidence beaucoup plus simple dans sa facture et qui nous montre bien que chacun joue, le tric-trac est joué dans les tavernes mais est aussi joué dans les cours princières. C'est peut-être un peu moins clair pour le jeu d'échecs, quoique certaines pièces d'échecs trouvées en contexte archéologique chez nous nous montrent qu'il y a une production dans des matériaux locaux plus simples que l'ivoire, qui sont par exemple les bois de serre, et très abondants. On les trouve de manière récurrente dans l'univers des ateliers de tabletiers, dans les châteaux forts. Autant de choses qui nous permettent de comprendre qu'il n'y a pas que les jeux de Lewis ou le jeu dit de Charlemagne. Il y a également des expressions plus simples sur les mêmes codifications qui nous montrent que cette pratique du jeu est vraiment très largement partagée par la société.
Alors merci beaucoup à toutes les deux. Une dernière question. Évidemment, quand vous avez préparé cette exposition sur les jeux, c'était quand même une idée assez originale. Est-ce que cette exposition a vocation à voyager peut-être après ou...
Alors l'idée originale, je suis tout à fait d'accord avec vous, il faut rendre hommage à Anne-Elisabeth Dunn-Vaturi, car c'est elle qui a proposé ce thème, et il est tout à fait particulier dans son approche de jeu de règles. Les expositions voyagent parfois, peut-être dans quelques temps aurons-nous le plaisir de pouvoir partager avec certains des partenaires. Pour l'instant, nous n'avons pas de vision très claire de cela.
Non. Bon, en tout cas, c'est une très belle collaboration. Donc, le Metropolitan Museum de New York et le Musée du Moyen-Âge donc de Paris, hein, le Musée des Thermes de Cluny, une exposition donc encore à voir jusqu'au 4 mars 2013. Art du jeu, jeu dans l'art, de Babylone à l'Occident médiéval. Merci beaucoup à toutes les deux. Donc, Isabelle Bardiès-Fronti, pardon, vous êtes conservateur en chef au Musée de Cluny, et Anne-Elisabeth Dunn-Vaturi, donc du Metropolitan Museum of Art. Merci.
Merci, au revoir.